À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie, c'est sur Radio Cité, 92.2.
Chers amis auditrices, auditeurs de Radio Cité, bonjour. Je suis devant quelqu'un qui me dit, mais attends, t'es en train de me prendre à froid. Alors je lui ai dit, ça tombe bien, moi aussi. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, Daniel Vermuse. La dernière fois, c'était, je crois, à la campagne. J'avais amené ma flûte et toi, tu jouais du balafon, tu te rappelles?
Ah oui. Oula. Quel beau souvenir, ouais. Mon balafon, il est toujours là, mais il m'attend dans ma chambre. Chaque fois que je me lève, il me regarde et alors, ça vient, tu t'occupes de moi un peu?
Ah là là. Ouais. Ah ben oui, ça me rappelle parce que ça nous connecte correctement quand on prend le temps de jouer de notre instrument.
Ouais, mais malheureusement, en ce moment, j'ai beau être à l'âge de la retraite, soi-disant, ça n'arrête pas.
Bon ben, bienvenue au club, hein. Tu sais, moi j'ai 70 balais maintenant. Ici, il y a une chose que je balaye, c'est justement la retraite, parce que j'ai pas l'impression de la vivre. Tu vois une différence, toi, entre le moment où tu t'occupais d'associations, où tu étais très actif dans la vie culturelle et sociale, tu avais un journal professionnel, tu es donc toujours journaliste, ça on n'est jamais, je crois, à la retraite quand on est journaleux, hein, c'est vrai ça?
Oui, oui, d'ailleurs, la directrice de l'ONU, madame Tatiana Vajalova.
Bravo. Oui.
que j'ai rencontré, qui est russe évidemment, elle m'a dit, quelqu'un m'a présenté comme journaliste retraité, puis j'ai dit non, je ne suis pas retraité, je travaille toujours, puis elle me regarde, elle dit oui, vous êtes comme les espions, ils restent toujours dans le business.
La dernière fois que j'étais ici dans la réception de cet hôtel, il n'y a pas si longtemps, c'était avec René Longet d'ailleurs, qui est quelqu'un qui, comme toi, quelque part, est très proche des droits humains, des peuples autochtones, de la nature et tout. Donc moi, j'ai toujours plaisir à rencontrer des gens comme ça. T'es pas venu en voiture, t'es pas venu en train. Je crois que t'as trouvé un compromis, toi, t'es sur un deux roues. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de se balader en ville avec ça?
Non, je pense pas. Il faut juste être très attentif et puis à chaque seconde compte, quoi. Mais si c'est comme pour tout ce qu'on fait qui est important, il faut être dans la conscience, n'est-ce pas? Et pas dans une espèce de lourdeur, d'oubli, d'absence, comme on est trop souvent.
Ah, mais c'est pas toujours évident, hein. Rue de Lausanne, il y a quelques temps, je me balade avec mon vélo électrique et j'ai failli renverser, tiens-toi bien, un mec en trottinette qui me doublait. Et je ne m'attendais vraiment pas à me faire doubler par une trottinette. Il a failli se retrouver coincé dans les rails du train.
Ouais, bon, c'est vrai. Il faut faire un petit peu attention. Mais pour moi, ce n'est pas seulement pour être écolo et rouler sans cracher des gaz. Mais c'est aussi pour faire l'exercice. Parce que le vélo électrique, contrairement à ce qu'on en croit, ce n'est pas juste on ne s'assied pas puis on appuie sur le démarreur. Non, c'est on pédale.
On est bien d'accord. Ouais. Moi, j'arrive à me fatiguer. Bon, je me suis fait piquer mon vélo électrique l'année dernière. Donc maintenant, bon, j'ai vu ça que l'assurance, ça joue et tout. Mais c'est vrai qu'on peut se fatiguer. Hein. Je fais des versois rolls aller-retour. Je te jure que si je veux justement arriver à le faire sans commencer à pédaler sans assistance, parce que c'est un vélo quand même un peu plus lourd que les autres, eh bien, ouais, il faut que je me soigne un petit peu pendant tout le parcours.
Voilà, ouais, pédaler dans le yogourt, ça fortifie. Voilà.
Est-ce qu'on va peut-être faire un petit feedback quand même, parce que la dernière fois qu'on s'est vu il y a très longtemps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais il y en a qui n'ont pas eu ce plaisir. Donc on parlait tout à l'heure de journalisme, de profession. Et moi, je t'ai connu à cette époque-là d'ailleurs.
Oui. Bon, c'est un peu difficile de. C'est plus de 40 ans d'activité professionnelle, sans parler des activités. Activité non professionnelle.
Parce que tu as bourlingué en Afrique aussi, je crois.
J'ai bourlingué en Afrique, et pour le boulot, et pour ma découverte personnelle. J'ai rencontré des sorciers, des esprits, et justement la musique.
Ah, t'es pas né comme ça, donc il y a un sorcier qui t'a un petit peu poussé, là.
Mais non, je suis né dans une famille, surtout du côté de mon père, qui était mathématicien, une famille très rationnelle, très intellectuelle. Et donc, tous ces aspects un peu mystérieux de notre planète, eh bien, je les ai découverts un peu fortuitement, enfin, soi-disant. Je pense pas quand même. Je pense que j'étais guidé quand même, mais sans le savoir. Et j'ai mis du temps à entrer dans ce monde-là, sans devenir complètement superstitieux et accro à tout ce qui est un peu New Age. Mais j'ai vu des choses qui montrent qu'on est dans plusieurs dimensions.
Alors, guidé sans le savoir, ça m'interpelle.
Oui, parce qu'on croit toujours qu'on décide ce qu'on fait. À un certain niveau, oui, peut-être. Mais en fait, on est quelque part... J'ai vu que des fois, il y a des événements qui montrent qu'il y avait une petite voix qui me poussait dans une direction que j'écoutais pas forcément toujours, mais qui insistait un petit peu quand même gentiment. Et finalement, elle m'amenait déjà dans le journalisme. Ça, j'ai eu ça aussi. Et puis dans plusieurs autres rencontres.
Un exemple?
La rencontre d'enseignement, comme on dit, mais plutôt c'est des parcours de personnes qui sont dans ce qu'on appelle dans le champ spirituel maintenant. Mais très tôt, j'ai rencontré un maître japonais dans les années 70 qui enseignait le mouvement régénérateur. Donc c'était un système, une méthode qui permettait d'éclencher tous les réflexes et tous les mouvements non volontaires du corps, comme le battement du cœur ou la respiration, mais en fait, ça s'étend à tous les mouvements. Et ces mouvements qui sont guidés par une sagesse corporelle, une sagesse de l'être, beaucoup plus grande que notre petite sagesse intellectuelle, permettent de rétablir des équilibres, des énergies, la santé aussi. Donc j'ai découvert ça. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a fait découvrir cette autre partie de l'être qui est dans la non-pensée et dans le présent.
C'est-à-dire, comment on va dire ça? Ah oui, c'est carpe diem, c'est ça?
C'est carpe diem et non pas cartésien.
Ah Daniel, quel plaisir de te voir. Tu vois Daniel, tout à l'heure tu me parlais de façon succincte de l'OMS. Tu peux m'en dire un peu plus? Il y a eu une manif dernièrement.
Oui, il y a une manif le 1er juin sur la place des Nations. Et ça c'est un peu un aspect nouveau de mon orientation à la fois personnelle et professionnelle. C'est que très longtemps j'ai suivi ce qui se passait au niveau mondial avec les grandes organisations qui font du bien ou du mal dans toute une série d'activités de la planète. Notamment creuse les inégalités entre les riches et les pauvres, entre le nord et le sud, et entre le pillage des matières premières, l'évasion fiscale, enfin toute une série de problèmes qui font que les gens sont obligés de migrer, qui font qu'il y a des changements écologiques importants qui sont produits par notre surconsommation des pays riches. Enfin, bon, j'étais beaucoup dans l'étude de ces problèmes. D'ailleurs, le travail professionnel que je faisais, c'était une agence qui s'appelait InfoSud, donc qui donnait des informations sur les pays du Sud en développement.
Et bien sûr, oui.
Sur leur sagesse aussi, parfois, mais pas toujours. Hein. Et puis sur les relations Nord-Sud, très inégalitaires et creusant toute une série de dysfonctionnements au niveau mondial. Alors, l'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Pourquoi ? Eh bien, c'était à l'origine une organisation qui aidait à mieux gérer les problèmes de santé, qui donnait des informations, des indications, des recommandations parfois.
Mais il dépendait de qui ?
Des Nations Unies. Mmh. Et des États, dans des États membres. Et il y a depuis une vingtaine ou 20 ou 30 ans, disons, ça a été le lieu, au fond, d'action des lobbies pharmaceutiques, parce que évidemment qu'il y a d'énormes marchés qui peuvent s'ouvrir sur la base de recommandations de l'OMS. Il y a eu l'intervention de personnages comme Bill Gates, mm-hmm. qui a compris que les profits des pharma, dont il a toujours investi dans les pharma, même quand il était à Windows, hein, quand il était dans l'informatique.
Il a joué triangulaire avec une fondation, je crois. Et la fondation de l'autre côté, elle retrouvait de l'argent.
Qui se disait philanthropique, mais qui en fait investissait dans les vaccins, mmh. et puis récoltait, selon ce qu'il a avoué à Davos, récoltait 20 fois plus que la mise de départ. Et Bill Gates a très vite compris que les nouveaux médicaments des industries pharmaceutiques sont très rares, maintenant, se comptent sur les doigts d'une main. Et donc rapporte très peu d'argent, il nécessite énormément de recherche et 10 ans après, il y en a très très peu qui deviennent vraiment utiles. Et il y a beaucoup de génériques. Par contre, les vaccins, ça c'est un champ illimité. Donc de dire aux gens qu'ils vont tomber malades de toutes sortes de maladies, il y en a plus de 30 000 je crois, qui ont été recensés, et qu'on peut les prévenir ces maladies en se vaccinant, en se piquant. Eh bien, c'est un marché gigantesque qui a été testé lors de la fameuse époque du Covid, mais déjà avant, ça a été testé. Et puis, c'est sans parler des effets secondaires de ces vaccins. Moi, je suis pas contre forcément tous les vaccins, mais je pense...
Ne serait-ce que toi qui aimes bien bourlinguer, tu t'es pris quelques vaccins, genre tétanos et compagnie.
J'ai dû en faire quelques-uns, mais j'en ai fait un minimum. J'ai toujours pensé, justement, ce premier maître japonais que j'avais découvert nous expliquait qu'en fait, le corps savait ce qu'il avait à faire. S'il était écouté, ce qui est très rare, ce qui est tout un apprentissage, eh bien, on n'avait pas besoin d'un minimum d'intervention extérieure, qu'elle soit médicale ou autre, qu'il fallait faire confiance à cette sagesse intérieure. Et donc, les vaccins, pour lui, c'était un moyen de protection qui, en fait, détruisait la protection naturelle que tous les organismes ont. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer d'emblée à toutes les formes de soins médicaux. Évidemment, il ne faut pas être extrémiste. Il faut juste avoir ça à l'esprit en se disant, si on donne des bonnes conditions de vie aux gens, à la fois matérielles, alimentaires, et physiques et psychiques, eh bien, il y a un minimum de besoins médicaux.
Donc, c'est un petit peu comme les antibiotiques, en fait. Le corps s'y accoutume, on les rejette dans la nature, etc. Puis un jour, ils n'ont plus d'effet, et puis il faut en retrouver d'autres.
Voilà, les vaccins, c'est pareil. Et d'ailleurs, ce maître japonais, Maître Tsuda, qui enseignait donc le mouvement régénérateur, a écrit toute une série de livres, en français d'ailleurs, au courrier du livre, qui sont très intéressants. Et il expliquait, plus on est protégé, plus on s'affaiblit. C'est ça le paradoxe. Donc moi, j'ai été très proche de cette vision des choses, tout en acceptant, quand c'était obligatoire, notamment la fièvre jaune, qui d'ailleurs plus tard, 20 ans après, on nous a dit qu'on n'aurait jamais dû se vacciner autant contre la fièvre jaune. On nous disait de le faire tous les 10 ans, et en fait, on voit que c'est très grave de faire ça. On nous dit maximum 2 fois dans une vie maintenant. Et après, ça va encore changer. Et puis, on a vu, à partir des années 2000, les vaccinations obligatoires d'enfants aux États-Unis d'abord, en France maintenant, par dizaines de vaccins, créer des effets secondaires énormes. Évidemment, l'establishment médical et politique refuse d'admettre ça, mais on a des témoignages très importants qui montrent ça.
Donc, le sens pour toi de cet événement, de cette manifestation, c'est en rapport au fait que maintenant, cette organisation onusienne, finalement, elle est plus libre parce qu'elle est financée par le domaine privé.
Elle prépare donc des accords internationaux, appelés traité pandémie, et l'autre, c'est le règlement sanitaire international qui existe déjà, mais qui sera amendé, dans lequel il y aura toute une série de dispositions qui vont obliger les États à appliquer les recommandations de l'OMS.
Et comment elle pourrait l'obliger ?
Par signature de traité. Et bon, après, il y a certains États qui vont certainement se défiler, mais disons que dans l'ensemble, c'est ça, c'est un contrôle mondial des politiques sanitaires qui fait que les gens n'auront plus le choix sur leur méthode de santé, sur leur remède, sur leur médecin, sur leur façon de se soigner. Et il n'y aura que la médecine technologique, médico-pharmaceutique, hospitalière, qui sera comme le parti unique dans les anciens pays totalitaires.
Donc c'est un lobby qui tout à la fois contrôle les finances, la politique et même les organismes onusiens, c'est ça ?
Alors ça a l'air très caricatural de dire comme ça, mais quand on regarde les textes et puis qu'on regarde ce que disent aussi les promoteurs de cette vision des choses, à commencer par le Forum économique mondial, ils le disent très clairement, il faut juste écouter. Donc ça, c'est assez dangereux parce que ça veut dire que le directeur de l'OMS peut décréter que le moindre rhume d'un lézard ou d'un singe observé à l'autre bout du monde peut devenir une pandémie. Bon, j'exagère un petit peu, mais il aura théoriquement ce droit. Et qu'à partir de ce moment-là, il y aura des médicaments, antibiotiques ou vaccins qui vont être commandés à l'industrie pharmaceutique lorsqu'ils ne sont pas déjà préparés à l'avance, ce qui a été le cas du vaccin Covid, en fait, on le sait maintenant, et qui seront obligatoires.
Eh bien, on vit dans un beau monde, mon cher Daniel.
Ouais. Donc voilà, peut-être que ça a l'air caricatural pour beaucoup de gens. C'est difficile de croire une chose pareille. Moi-même, j'ai mis plusieurs années à admettre que c'était organisé, tout ça. Parce que ça fait évidemment, on appelle ça complotiste. Hein.
Alors tu serais complotiste, Daniel ?
Alors moi, comme journaliste, j'ai toujours gardé une distance. Donc même si j'ai de fortes tendances à penser que ce complot existe, mais c'est pas nous qui sommes complotistes, c'est ceux qui ont fabriqué ce virus en Chine. Ça, c'est reconnu maintenant par les laboratoires aux États-Unis. Ils ont fabriqué ce virus en Chine parce que c'était interdit de faire des gains de fonction de virus, donc de transformer les virus pour qu'ils deviennent nocifs pour l'homme. C'était interdit de le faire aux États-Unis depuis un décret d'Obama, du président Obama. Donc ils sont allés le faire en Chine. Ça, maintenant on le sait, c'est démontré. Donc j'ai mis du temps, mais finalement, tout en gardant une distance, en disant bon, le monde n'est pas foutu, il y a quand même des forces, voilà. On n'est pas tous, tout le monde n'est pas pourri, tous nos gouvernants ne sont pas complètement corrompus, mais quand même il y a, on appelle ça la corruption systémique, c'est-à-dire que même si on est honnête, mais qu'on est dans un système et qu'on n'obéit pas à ce système, eh bien on est écarté. On perd son métier, on perd des opportunités d'avancement ou de recherche. Donc la plupart des gens se conforment, même sans toucher d'enveloppe. Ils participent à cette corruption systémique. Alors évidemment, quand on interroge, comme devrait le faire tout journaliste, aussi l'autre côté, hein, ils nous disent « mais non ». Donc les gens à l'OMS ou dans les gouvernements, ils nous disent « mais non, en fait, n'ayez pas peur, c'est pas du tout ça, la souveraineté des États sera respectée, elle est sacrée ». Mais on regarde en fait ce qui est écrit dans les textes et puis ce qui est dit autour des tables de négociation, c'est un peu l'inverse malheureusement. Et notamment, il y a une disposition qui interdit la désinformation, donc qui va traquer les gens qui donnent des informations, un peu comme ce que je suis en train de dire maintenant, qui sont de la désinformation, selon eux, et ça va devenir illégal dans certains pays. Donc là, il y a un risque qu'en fait, je ne dis pas qu'il faut absolument avoir qu'une seule opinion. Moi, comme journaliste, je suis pour un débat public ouvert sur les gens qui pensent comme ci et les gens qui pensent comme ça, les gens qui sont à droite ou à gauche, les gens qui sont pour les pharmas et contre les pharmas. On a besoin de ce débat ouvert et éclairé avec des gens nuancés, intelligents, et honnête. C'est ça que je demande. Mais malheureusement, c'est interdit.
Donc ça veut dire que si on continue sur ce chemin-là, j'aurais peut-être l'interdiction formelle de pouvoir parler de ce genre de choses avec toi.
Écoute, c'est ce que redoutent beaucoup d'observateurs, notamment certains journalistes qui ont pris conscience du danger qui pèse actuellement sur la liberté d'opinion. Hein, alors que la plupart des journalistes de mes confrères pensent que c'est des fantasmes, que tout va bien, ou presque, on a quand même le droit de dire ce qu'on pense et tout, on est en démocratie. Mais en fait, il y a une lourde tendance de pensée unique, parce qu'on l'a vu pendant ces 3 années de crise Covid, que les avis divergents, même de la part de gens très très compétents, comme des grands professeurs aux États-Unis, et aussi chez nous, n'avaient aucun accès aux médias. Et même dans les médias, il y avait une interdiction, notamment en France, d'interroger, par exemple, le professeur Perron, qui a écrit plusieurs livres très, très, très documentés. Donc, qu'on soit pour ou contre lui, il méritait d'être dans un débat. Ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est quand même des tendances lourdes qui nous font craindre que la liberté d'opinion que nous avons connue depuis 50 ou 100 ans dans certains de nos pays occidentaux est en train d'être érodée. Et ça, c'est très... Alors, est-ce qu'on va se retrouver en prison? Peut-être pas tout de suite, mais regardez cette loi qui vient de passer en France contre les dérives sectaires. Elle a été adoptée, je crois, en février de cette année. Et un des articles, l'article 4 de cette loi, interdit la promotion de thérapies qui seraient contraires à l'avis des autorités sanitaires. Et notamment interdirait des médecines qui prônent le jeûne, par exemple, ou même l'acupuncture, et l'homéopathie et l'ayurveda, qui sont des techniques très très anciennes.
Ah ouais, ils ont des heures de vol.
Même beaucoup plus que la médecine occidentale, sont considérées comme des non pas comme des médecines, mais comme des je ne sais plus le terme qui a été employé, mais enfin c'est des cultures ou des pratiques. Et donc, cet article 4 punit jusqu'à 100 000 euros d'amende, si je ne me trompe pas, le chiffre, et une année de prison, ou est-ce que c'est 30 000, je ne sais plus, enfin, et une année de prison des médecins ou d'autres acteurs, comme des journalistes, qui feraient la promotion de ces méthodes.
Et ça, donc, c'est écrit, signé, je t'aime, polisé.
Oui, ça a été voté. En plus, d'abord, le Parlement français, je ne sais plus si c'était le Sénat, s'y était opposé. Et ça a été revoté. Ils ont fait 2-3 petites modifications de virgule. Et ça a été voté un soir où il n'y avait presque plus personne. Donc, c'est ça, la démocratie dans certains pays maintenant. C'est comme ça que ça marche.
quelque chose qui marche toujours, en tout cas dans notre émission, puisque c'est un rituel. Quand quelqu'un dit « merci la vie », comment ça résonne en toi, Daniel ?
Eh bien, j'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, depuis quelques années, mais surtout maintenant, de plus en plus, je pratique la gratitude, parce que je pense que c'est un antidote fabuleux à tout ce qui nous pèse, à tout ce qui nous contrarie. Et puis, c'est aussi un stimulant pour toutes les bonnes choses qui vont nous arriver. Donc remercier déjà d'être vivant, d'être en relativement bonne santé, même si on a quelques bobos, d'avoir des amis extraordinaires, d'avoir une vie passionnante, un beau métier, d'avoir des contacts avec des choses qui nous éblouissent, des paysages. Et puis merci aussi à des circonstances comme celle qui nous réunit maintenant, Michel. Bien, moi, je pratique de plus en plus ça. Et c'est pas un remerciement de politesse, c'est quelque chose qui vient du cœur. Enfin, ça se cultive.
À part notre rencontre, je te remercie, ça me touche, ce que tu me dis. Ces dernières 24 heures, est-ce qu'il y a eu un événement où tu te dis, oh, si j'avais pas été vraiment vivre dans l'instant, je me serais pas rendu compte que ça, c'est une magnifique étincelle d'amour?
Ben oui, c'est difficile d'en parler, mais j'ai eu quelques téléphones ou messages téléphoniques de personnes qui me sont chères. Et qui aussi, comment on dit ça, auxquels, non, pour lesquels je suis cher, et qui, c'est pas forcément des amoureux ou amoureuses, plutôt amoureuses dans mon cas, mais c'est des personnes dont je suis très proche, et quand je reçois des messages pareils, je vois que là, il y a de la grâce là-dedans. C'est pas juste un message poli, sympa, ouais, salut, comment ça va.
Donc le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, quelque chose, c'est avoir avec la relation humaine, avec ce partage.
Oui, en tout cas pour moi en ce moment, oui. Mais bien sûr que quand tu entends le chant d'un rossignol, ben c'est aussi une grâce. Ou le soleil qui se couche sur un magnifique paysage, c'est aussi une grâce. Pour autant qu'on la voit comme une grâce. Je me souviens que Pierre Rabhi racontait une histoire très intéressante quand il était encore vivant. Il disait qu'il se promenait avec un garde forestier et tout à coup, le soir, il voit un coucher de soleil qui illumine un arbre mort avec des branches magnifiques, une vraie sculpture. Et Pierre Rabhi dit « Oh, mais c'est magnifique, c'est superbe !» Et le garde forestier lui dit « Ouais, ça fait tellement de stères, tout ça !»
Bon, ben, y a pas de mystère. C'était un bon moment qu'on a passé ensemble, mon ami. On va peut-être terminer sur ces paroles qui sont pleines d'espoir et puis de gratitude, comme tu le dis. La gratitude, je l'ai aussi avec nos auditrices et auditeurs que je ne manque jamais de remercier et à qui on va aussi dire merci la vie. D'accord ?
Oui, alors merci, merci la vie. Merci Michel, merci à tous les auditeurs. Merci d'être là, d'exister. Et d'être venu sur cette belle planète, passer quelques décennies à découvrir des tas de choses.
Eh bien voilà, à tout bientôt. Au revoir.